19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver chers amis. Ouais. Un vrai plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, vous le savez, c'est un véritable bonheur. Alors au 01 53 48 3000, tout d'abord, vous pouvez intervenir quand vous voulez et quand vous le souhaitez, ici même. Ça se passe jusqu'à 20h et vous commentez, vous les analysez et lorsque vous entendez, vous savez, cette fameuse sonnerie, et bien vous êtes prioritaire, voilà, vous intervenez quand vous voulez. Ensuite, au sommaire de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. Plusieurs sujets parce que d'abord, on reviendra sur la marche les 40 ans pour l'égalité et contre le racisme, avec Mamed Kaki, qui viendra nous livrer un petit peu à la fois son événement, mais surtout revenir sur le contexte historique de cette marche. Nous parlerons aussi avec les débatteurs influenceurs qui sont déjà autour de ce plateau sur à la fois la question de Mélenchon qui se pose. Mélenchon, voilà, qui risque d'être... qui fait débat, hein, y compris au sein de son clan. La mort de Thomas, qui rejaillit tout le temps en permanence. On parlera aussi de ses prénoms, fallait-il les donner ou pas. Vous savez, c'est un sujet aussi qui revient. Et les quartiers populaires, finalement, on se pose la question, ne sont-ils pas les stigmatisés de notre société française? Sur tous les fronts, d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. 0153 48 3000, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Il était comme nous, émigré.
40 ans après, sur Beur FM.
Mamed Kaki, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, vous êtes le président d'une association très engagée notamment, engagée sur plein de, évidemment, plein de, je dirais, des sujets qui nous concernent. Alors, vous, président de l'association Les Oranges, tout d'abord, avant de parler des 40 ans, je sais que demain, il se déroule un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. Vous pouvez nous en parler, nous en toucher quelques secondes sur l'antenne?
Oui, c'est un grand bonheur. Demain, nous recevons les leaders de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, il y a 40 ans. Donc, nous recevons le père Christian Delorme, qui est l'initiateur de cette initiative il y a 40 ans, avec Jamel Atala, qui est également l'initiateur. Nous recevrons des marcheurs historiques, et puis des chercheurs en sciences sociales et humaines, et puis des avocats, et puis des témoins importants d'aujourd'hui. Donc nous parlerons à la fois de l'histoire de la marche, mais aussi de ce qui se passe aujourd'hui et puis l'avenir. Hein. Et justement, à propos d'avenir, ce qui est de merveilleux, c'est que nous avons visiblement beaucoup de jeunes, des lycéens, des étudiants qui sont intéressés par cette rencontre demain à la salle des congrès de Nanterre à 13h30. Et donc, ils nous ont fait savoir qu'ils venaient. Donc, c'est un grand bonheur, un immense bonheur pour nous de les accueillir et d'accueillir toutes celles et ceux qui veulent venir à ce colloque populaire.
Absolument, vous parliez tout à l'heure des différentes personnalités, notamment Christian Delorme, Amal Bentoussi, Ari Halimi, qu'on a reçu sur notre antenne très récemment, oui. Assetou Cissé. Donc c'est pour ça qu'il faut, je vous le dis, chers amis auditeurs, il faut pas le manquer parce que il va y avoir notamment une série d'interrogations qui vont être posées et surtout cet héritage. Qu'est-ce qu'on hérite de ces 40 ans, mon cher Mamed Kaki?
On hérite d'une mémoire de combat, on hérite d'un héritage de gens debout, mais aussi de la fraternité, de la justice, du être ensemble, hein, au-delà du vivre ensemble, du être ensemble, parce que c'est ce qu'a marqué cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme il y a 40 ans. Elle a marqué l'idée qu'on transpire ensemble, on respire ensemble et on ne peut rien faire tout seul. On n'arrive à rien tout seul. C'est collectivement, en associant les intelligences, que l'on peut avoir un avenir commun, un avenir global ensemble. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que nous héritons de cette belle marche. Et aussi, donc aujourd'hui, le contexte, évidemment, est très différent parce que il y a 40 ans, il n'y avait pas de gens d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a 90. Et donc, le contexte est différent, mais la lutte est la même, le combat est le même pour la justice, l'égalité, la fraternité.
Et c'est alors, est-ce que, Mamed Kaki, franchement, vous allez me permettre, est-ce que la lutte, vous dites que la lutte est la même, est-ce qu'elle n'a pas changé de visage? Quand on voit, vous savez, les ratonnades, quand on voit notamment cette ultra-droite s'opposer aux jeunes des quartiers populaires, cette ultra-droite qui aujourd'hui s'en gêne d'ailleurs, qui se bananise et qui exprime très librement le fait de dire, par exemple, l'islam n'a pas sa place au sein de cette République, ni en Europe, les immigrés, c'est les immigrés qui tuent, etc., etc. Elle a quand même changé de visage, quand même, cette xénophobie.
Oui, absolument. Je vous remercie de ce beau résumé. Vous avez tout à fait raison. La lutte est la même. Le combat est le même parce que c'est pour la justice, l'égalité, la fraternité. Mais, et c'est là où vous avez raison à 100%, le contexte est différent. Aujourd'hui, des gens sont complètement relâchés. C'est-à-dire qu'on a le droit d'insulter les Arabes, les musulmans, les Noirs à la télévision sans qu'il y ait de conséquences. Hein. C'est ce que j'appellerais, moi, la toute-puissance. On a le droit de tuer quelqu'un à bout portant, comme ça s'est passé pour Naël. Et puis, finalement, il est relâché, le gars. On a le droit d'assassiner des jeunes, de tirer sur une dame qui a son balcon à Marseille, et puis finalement on n'a pas grand chose en retour. Vous savez, qu'est-ce qui fait que quelqu'un réfléchit pour ne pas assassiner quelqu'un d'autre? C'est la peur, hein, c'est l'idée qu'il doit rendre des comptes à la justice. Or aujourd'hui, il y a effectivement une libération de la parole raciste, xénophobe, haineuse, qui se libère, et puis surtout, où il y a une certaine complicité d'un certain nombre de gens de la classe politique, globalement, d'ailleurs, de gauche comme de droite, et évidemment, donc l'ultra-droite, eh bien, elle gagne du terrain, elle est consolidée. Et donc ça, c'est ça la chose inquiétante, et c'est ça la chose qu'il nous faut doublement combattre.
Alors justement, vous parlez d'inquiétude, vous parlez de combat. Il y a eu, en fait, les 40 ans pour l'égalité donc et contre le racisme. Est-ce que finalement, quelle forme de marche peut-il y avoir avec cette nouvelle génération? Vous, les 40 ans, c'était une première génération, deuxième génération. Aujourd'hui, quand on s'adresse à la quatrième génération, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quelle forme de marche peut-elle prendre aujourd'hui ou peut-elle occuper l'espace? Est-ce que c'est pas les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas comment sensibiliser cette quatrième génération, cette jeune génération? Comment l'interpeller? Parce que c'est ça aujourd'hui l'avenir. L'avenir, mon cher Mohamed Kaki.
Oui, mon cher Adil, absolument. Vous avez, c'est vraiment, j'adore cette discussion avec vous, c'est merveilleux parce que on est complémentaires. Et non, mais c'est vrai, vous êtes un vrai accoucheur. C'est ça, le vrai métier de journaliste, c'est vous faites accoucher les autres. Bon. Et évidemment, j'ai envie de vous répondre, cher Adil, que exister, c'est résister. C'est le mot clé que moi je répète inlassablement aux jeunes. Il n'y a rien n'est acquis. Tout, à tout moment, vous pouvez tout perdre. D'accord, c'est comme au poker, c'est ça la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que voilà, on a des acquis, c'est bon, on peut respirer, je peux dormir tranquille. Non, tu ne peux pas dormir tranquille. Fais attention, sois toujours vigilant, en garde, hein, toujours en garde, comme dans les arts martiaux, pour combattre, parce que on ne nous donnera rien, il faudra toujours arracher, comme dans le passé, mais aujourd'hui encore plus. Et donc, ce que je dis à la jeunesse, c'est qu'il y a de multiples moyens de se battre. Vous savez, moi, je joue devant des très jeunes, pas plus tard hier, je jouais devant des adolescents, ma pièce de théâtre, 17 octobre 1961, je me souviens, qui a pris aujourd'hui une ampleur très importante, je suis sollicité partout et j'en suis heureux. Et donc, je vois leurs yeux briller et je leur dis, hier on se battait, aujourd'hui on se bat encore, il faut continuer et surtout, ne nous trompons pas d'adversaires. C'est le racisme systémique qui est en jeu aujourd'hui. C'est pas le voisin en face qui est méchant ou je sais pas quoi. C'est les conditions de production qui fait que tel individu est devenu comme ça. C'est-à-dire, on a une machine de guerre donc de télévision, de médias, d'hommes et de femmes politiques qui sont délibérément racistes, et c'est cela qu'il faut combattre. Et d'ailleurs, on est plus nombreux qu'eux. Moi, je veux dire l'espoir, c'est-à-dire qu'on peut retourner la situation. En réalité, c'est parce que beaucoup de gens ne votent plus, beaucoup de gens sont dégoûtés, etc., par la politique. Donc, il faut un réenchantement. Et donc, ce réenchantement, il s'acquiert aussi grâce à la culture, grâce au savoir et grâce au combat. Le savoir est une arme de pouvoir. Alors, c'est pour ça que l'enjeu de transmission est important.
Rappelons donc l'événement à ne pas manquer demain. Pour clore cette interview, mon cher Mohamed Kaki, vous, le président de l'association Les Oranges.
Alors, demain, salle des congrès de Nanterre, en dessous de la mairie de Nanterre, donc à 13h30, donc nous serons là-bas. Et je voulais rappeler aussi que, évidemment, il y a tous les invités prestigieux que vous avez cités, mais il y aura aussi, de manière très importante, il y aura un moment musical, de festif, et nous avons une surprise, puisqu'il y a un grand chanteur qui d'ailleurs chante ce soir à la Cité de l'Immigration, je crois qu'il y a des gens qui vont le reconnaître, et un très beau chanteur, magnifique, et donc qui sera là, et donc on finira la soirée avec de la musique, et ça donnera du baume au cœur. Pourquoi ? Parce qu'il faut réenchanter les cœurs, il faut la joie. Absolument. Dans les cœurs.
Merci. Hein,
et la joie, c'est important. Voilà.
Merci et bravo. Donc, bravo, mon cher Mamed Kakim, le président de l'association Les Oranges, événement à ne pas manquer demain. Merci à vous et bon courage pour demain. Plein de bonnes
Merci
choses.
Merci Adil, à bientôt.
C'était au revoir, à très haut plaisir, bien sûr. C'était les 40 ans pour l'égalité et contre le racisme.
C'était la marche pour l'égalité et contre le racisme, 40 ans après, sur Beurre FM. Les informés. L'interview.
On poursuit cette émission Les Informés avec le président d'SOS Racisme. Bonsoir président Dominique Sopo, comment ça va ?
Bonsoir, ça va malgré les temps qui sont durs sur les questions de racisme.
Ah exactement, alors justement vous président, vous avez interpellé, donc vous avez saisi le parquet afin que Éric Zemmour, vous dites Éric Zemmour multirécidiviste des propos racistes, il a répondu à Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, vous avez saisi quoi ? Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez, c'est par rapport à ces propos ? Dites-nous tout, mon cher président.
Oui, écoutez, d'abord, on constate que depuis quelques jours, il y a une ambiance de ratonnade, et même plus qu'une ambiance de ratonnade, il y a, suite à la mort tragique de Thomas, qui a été tué, comme on le sait, à Crépol, une classe politique à l'extrême droite, qui est malheureusement de plus en plus dans la droite dite républicaine, et bien une volonté de stigmatiser les Arabes, les musulmans, les immigrés, avec eh bien, le fait que lorsque l'on chauffe, tout cela a des conséquences en termes d'actes, on l'a vu à Romans-sur-Isère, avec cette descente totalement ahurissante de jeunes nervis d'extrême droite, chercher à faire une ratonnade. Bien, Éric Zemmour, derrière, intervient, après avoir déjà chauffé auparavant, en parlant de guerre ethnique, de guerre civile, en ayant des propos déjà extrêmement virulents, en expliquant finalement que, ce sont aujourd'hui les arabo-musulmans, hein, qu'ils qualifient de racailles arabo-musulmanes, qui sont à l'origine de meurtres des personnes qui s'appelleraient Thomas, etc., c'est-à-dire dans son esprit, les Blancs. On ne peut pas accepter des propos d'une telle nature. Il y a des lois en France qui font qu'on ne peut pas être dans l'injure à caractère raciste ou dans la diffamation raciale ou dans l'incitation à la haine raciale. Et c'est en cela que nous avons confié à nos avocats le fait de saisir le parquet, puisque là, il nous semble que les propos ont dépassé la ligne rouge de ce qui est admissible au regard de la jurisprudence française, en espérant que le parquet ouvre une procédure judiciaire afin qu'il soit traduit devant des tribunaux.
Et tout cela va prendre du temps, j'imagine, et vous allez interpeller, j'imagine, l'exécutif, non ? Parce que vous êtes
Nous avons déjà interpellé l'exécutif depuis la mort de Thomas, dans la mesure où on voit bien qu'il y a une libération spectaculaire d'une parole raciste qui, déjà depuis quelques mois, on peut dire qu'il y a une certaine épaisseur maintenant, là on se souvient de la campagne présidentielle avec Éric Zemmour, on se souvient la façon dont le meurtre glauque et tragique de Lola l'an dernier avait déjà donné lieu à cette tentative de confrontation ethnique de la part de l'extrême droite, notamment zémouriste à l'époque. Donc on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui une extrême droite qui se sent poussée des ailes et qui pense que le moment est venu de retrouver une normalité de l'agression raciste dans la rue et de la tenue de propos racistes ouverts dans l'espace public. Et l'exécutif doit évidemment intervenir. Je rappelle d'ailleurs que en Irlande, on a eu un cas à peu près similaire à Dublin, où des attaques au couteau, alors qui ont été plus tragiques, ont produit des événements de grande ampleur avec là aussi des groupes d'extrême droite qui ont créé le chaos dans la ville de Dublin. Le Premier ministre est intervenu. Hein, et je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans une situation de crise, où il y a des groupes qui veulent s'en prendre à des personnes à raison de leurs origines, hein, c'est-à-dire des groupes qui, quelque part, veulent casser de l'arabe, hein, au final, eh bien, on peut quand même s'attendre à ce que la Première ministre ou le Président de la République intervienne solennellement. Je regrette qu'à ce stade, cela n'ait pas été fait.
Merci, mon cher Dominique Sopo, le président des SOS Racibes, d'être venu nous en parler à l'antenne. Merci, monsieur le président.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, à très bientôt. Nous marquons la première pause et on se retrouve justement avec ce beau monde. Tiens, je vais commencer par mesdames, madame, qui elle est la seule, Shai Ross. Comment ça va ?
Bonsoir Adil, ça va
Artiste
très bien, merci.
Avec nous. Maître David Lebeski, bonsoir.
Bonsoir, cher Adil.
Le jeune révolutionnaire et Chitibou, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Le jeune journaliste, vous rigolez avant même que je dise Radon Koura, qu'est-ce qui vous arrive ?
Je sais pas, vous me faites
c'est
rire,
pas,
Adil.
Ah bon, je vous fais rire maintenant ? Je fais rire maintenant.
C'est votre joie de vivre.
Voilà, plutôt la joie de vivre. Vous êtes menacé de mort, vous, en ce moment ?
C'est un peu compliqué depuis quelques jours. Oui.
Vous nous en parlerez tout à l'heure. Non, mais attendez, c'est pour ça aussi que vous en parlez, parce que vous avez tout le soutien de Beurre FM. Hein.
C'est très gentil, et puis je prends toujours beaucoup de plaisir à venir échanger avec les auteurs de Beurre FM.
Allez, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, 01 53 48 3000.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h, 20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h22, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Avec Shai Ross, Maître David Lebeski, avec Richie Thibault et Radouane Kourak. Et après, j'irai au standard avec, pour accueillir, bien sûr, Rachid, qui nous appelle du 59. Je voudrais juste donner la parole, vous savez, à Radouane Kourak. Radouane Kourak, il est journaliste, il est rédacteur en chef d'Opinion Internationale. Franchement, il lui arrive en ce moment, depuis quelques jours, des messages pas très agréables, franchement. Et j'ai décidé, moi, parce que je le reçois, tout, vous savez, hein, j'ai toujours soutenu mes débatteurs, il n'y a pas de raison de soutenir ceux que j'invite régulièrement, qui sont récurrents. Moi, je suis un vrai fidèle, ça veut dire que je les soutiens. Il se trouve que Radouane, notre confrère, eh bien, il est menacé de mort. Eh bien, vous avez tout notre soutien.
Eh bien,
qu'est-ce qui se passe, racontez-nous.
Eh bien, écoutez, on vit dans une France où s'appelait Radouane, défendre des valeurs plutôt républicaines, plutôt patriotes, affirmer sa fierté d'appartenir à la communauté nationale, d'être français. On vit dans le seul pays du monde où lorsqu'on est fier d'affirmer son amour pour sa patrie, son amour pour la France, on peut se faire insulter, on peut se faire menacer. Moi, je suis un Français, j'ai des origines algériennes, que je ne renie pas, mais je pars du principe que la France m'a tout donné. Je dois tout à l'école de la République, à l'État.
Et ça vous a valu des menaces?
Ça m'a valu énormément de menaces, Adil. De quelques militants. Il ne faut pas généraliser, j'ai quand même reçu des soutiens à gauche, mais c'est pas de la gauche d'ailleurs. La problématique vient notamment de l'extrême gauche. Je reçois des menaces, des insultes de l'extrême gauche, des indigénistes. Beaucoup d'insultes, hélas, de gens qui ont les mêmes origines que moi, qui me renvoient à mes origines, qui m'insultent de traître. Mais je n'ai pas forcément envie d'alimenter une polémique qui en ferait naître d'autres. Je n'ai pas envie qu'il y ait la récupération derrière.
Qu'est-ce que vous leur répondez?
À ces gens,
oui,
que je suis français, qu'ils sont aussi français, qu'ils ont, que nous sommes tous finalement des enfants de France. La France nous a tout donné. On a été à l'école de la République. Et je crois que la France est une, indivisible. C'est une communauté nationale. Et la France n'est pas un pays raciste.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. La France est plurielle,
Adil.
Absolument. Merci, Radouane Kourak.
Merci, cher. Tu as déposé plainte?
Ça, c'est l'avocat qui saisit tout de suite. Hein, on connaît l'avocat.
On s'est posé la question avec mon équipe. On s'est posé la question de si on déposerait plainte ou non. Il y a énormément de menaces. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait au fur et à mesure des signalements sur la plateforme Pharos. Mais déposer plainte, faudrait que je fasse 6000 signalements, c'est très compliqué. Ouais. Il y a eu 80 000 tweets le citant, dont 6000 menaces, c'est un peu compliqué.
Il a été interviewé chez Morandini, justement. Donc si tu as besoin d'un avocat, Maître Lebeski se propose. Hein, si
non.
J'ai submergé. Allez, tout de suite, qu'on lance le sujet, s'il vous plaît.
Je
voudrais qu'on commence par le meurtre de Thomas. Il n'est jamais eu de velléité de cacher les identités des suspects. Ça, c'est, vous savez quoi, les propos d'Olivier Véran. Je voudrais qu'on parle tout simplement. Je vous pose la question, faut pas tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a un problème de cacher les noms, de pas cacher les noms, de dire les noms? Est-ce qu'il y a une raison de vouloir étaler sur le plan public, médiatique, pardon, les noms de celles et ceux qui ont participé à ce lynchage jusqu'à ce qu'il a valu la mort du jeune Thomas? Évidemment, triste, c'est horrible ce qui se passe. Est-ce que, oui ou non, on fait un tour de table? Est-ce qu'il y a une raison de dire les noms?
Et on a
de
un avocat autour de la table.
Allez. Moi, Chairos.
Je pense que de toutes les façons, si les noms n'ont pas été dits,
ils ont fini par être divulgués.
Voilà, ils ont été divulgués, c'est parce que il y avait des recherches en cours. Mais je suis pas sûre que un nom, ça amène une accalmie. Donc,
oui.
Donc, c'est cibler des gens, quelle que soit leur origine ou leur. Leur opinion.
Ouais, il y a quelque chose à creuser là-dessus. C'est vrai que c'est pas mal dit. Hein. Maître David Libesquite. Alors.
Moi, de toute façon, je me situe toujours du côté du droit. Et donc, il y a une présomption d'innocence. Donc, je vois pas pourquoi on citerait les noms en fait, des personnes qui sont mises en cause. Mmh. Elles ont été en garde à vue. Pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation.
Non, mais est-ce que ça change quelque chose le fait de dire que c'est Karim, Mohamed ou que sais-je?
Évidemment.
Non, mais ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien, mais je ne vois pas pourquoi on divulgue.
Pourquoi ça fait débat? Pourquoi ça fait débat?
Oui, mais ça fait débat parce que, certains disent qu'il faut divulguer pour montrer que c'est Karim, c'est Mohamed, c'est des personnes issues de l'immigration. Voilà, c'est ça, en fait, le débat. Faut pas se le cacher. Les plus grands tueurs en série s'appellent Thomas, François, André, etc. Faut arrêter de dire, en fin de compte, que les personnes, en fait, issues de l'immigration, sont des pseudo-délinquants en puissance, ça n'a rien à voir. En fait.
C'est bien dit, merci Maître pour la précision. Réti Thibault.
Oui, alors déjà, en préambule, là où il y a un problème majeur, c'est comment se fait-il que des militants, parce que les noms ont fuité de prime abord sur des boucles de militants d'extrême droite, sur Telegram notamment, comment se fait-il que des groupes de militants d'extrême droite peuvent se procurer les noms des suspects et des mises en cause dans cette affaire? Moi, ça m'interroge sur les relations qu'entretiennent certains policiers à l'égard de ces réseaux. Et ça, c'est un vrai sujet et ça mérite d'être posé sur la table. La deuxième chose qui est extrêmement dramatique, vous savez ce qui s'est passé avec Thomas, c'est un drame, c'est un enfant de 16 ans qui est mort, qui a été tué, c'est dramatique, on le déplore tous. Mais par contre, l'instrumentalisation de l'extrême droite à des fins racistes, elle est juste écœurante et dégueulasse. On ne se sert pas de la mort d'un jeune de 16 ans pour sortir des théories sur un ensauvagement ou je ne sais quoi, ou un grand remplacement comme le fait Éric Zemmour. C'est nauséabond et c'est craché sur la mémoire de ce jeune qui a été tué.
Radon Korak.
Oui, moi je pense qu'il fallait donner les noms pour une seule raison. Ça fait partie de la formation. Dans toutes les affaires judiciaires, les noms finissent par sortir à un moment ou à un autre.
Par des journalistes, par des militants d'extrême droite.
Non, par des journalistes, mais tu ne peux pas parler de stigmatisation. Déjà, les stigmates, c'est dans la Bible, ça n'a rien à voir, c'est les blessures du Christ. Donc, je ne t'ai pas interrompu, s'il te plaît. Tu parles d'instrumentalisation de la part de l'extrême droite. Moi, je vais te dire, l'extrême gauche avait bien instrumentalisé la mort de Naël en
ça
disant
rien
que.
Mais
bien sûr que si, mais bien sûr que si.
Naël
a été tué suite à un délit de fuite, un refus d'obtempérer. Mais on laisse sous-entendre que Naël a été tué parce que pour des raisons racistes. Donc c'est aussi de l'instrumentalisation. Or, moi, je suis pour que l'on donne les noms. Ça n'a jamais. Dans toutes les affaires, on finit toujours par obtenir les noms, que ce soit de la presse.
Alors, tu es d'accord en fin de compte que le policier qui est mis en cause dans la mort de Naël, on doit citer son nom et son prénom.
Ah oui, moi je suis pour une totale transparence. Oui, bien sûr.
Non, là où il y a un débat qui se pose, c'est sur le fait notamment que là tu compares l'incomparable, si je puis me permettre. Dans le cas de Naël, tu as un policier, donc quelqu'un qui est habilité, qui est au port d'armes, qui est formé, qui est un fonctionnaire de la police nationale, qui tue quelqu'un. Tu vois, il y a une enquête qui est en cours, mais bon, les images sont assez flagrantes et éloquentes. Et de l'autre, tu as une rixe entre des jeunes. Tu ne peux pas comparer les deux. Ça n'a rien à voir en termes, sur le plan, ne serait-ce qu'en qualificatif juridique. Deuxièmement, sur les noms, moi, je pense que toi, qui peut être adepte des théories de l'ensauvagement, eh bien, justement, étaler sur
c'est
la sphère
théorie,
publique.
La France est ensauvagée.
Étaler les noms sur la sphère publique de mise en cause, c'est pour moi, laisser la porte ouverte à ce que des gens se fassent la justice eux-mêmes.
Allez,
et c'est dangereux.
Je vais juste revenir sur ce que tu dis, la différence entre le policier et les jeunes qui ont tué Naël, Thomas, lorsque le policier tue Naël, déjà, il y a une enquête en cours, en plus de ça, c'est suite à un refus d'obtempérer. Je te rappelle que dès lors que
et
tu
alors,
refuses d'obtempérer, tu alors, te mets toi-même en danger. La police a le monopole de la violence légitime.
Non,
les gens qui ont tué Naël ne l'avaient pas.
C'est la nuance.
C'est dingue ça. Mais le point commun, c'est pas l'humain, c'est pas l'erreur de l'humain, le point commun.
Le
point de Larix.
Chairos.
Mais attends, tu fais un comparatif.
C'est l'humain. Peut-être que c'est l'erreur humaine, peut-être que c'est l'impulsivité. C'est un point commun qu'ils ont. Dans les deux affaires, on est d'accord ou pas?
Non, on n'est pas d'accord.
Les informés des quartiers comme chaque vendredi, vous le savez, chers amis, parce que, effectivement, tout de suite, regardez ce qui est retenti là.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
les informés des quartiers avec Rachid qui nous appelle certainement de Lille peut-être. Rachid, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, vous allez bien?
Très bien, et vous-même, vous nous appelez de Lille?
Ouais, Valenciennes, 59, voilà.
On vous écoute, mon cher Rachid, alors.
Bah écoutez, déjà, par rapport au nom, juste vite fait, hein, on n'a pas donné les noms, effectivement, la récupération politique. Effectivement, je reviens sur les propos de la personne hein, concernant... Allô?
Oui, oui, je suis là, je vous écoute, je vous écoute.
Concernant la divulgation des noms, c'est comment ils sortent, effectivement, ça doit être des policiers qui doivent donner les noms, c'est pas possible, c'est inadmissible. Concernant le racisme en France, effectivement, hein, il y a une recrudescence du racisme vis-à-vis de la population maghrébine, en particulier, et les Algériens encore plus, voilà. Hein. Il faut arrêter de dire la droite républicaine, il n'y en est plus. Hein, quand j'entends M. Ciotti, toute sa clique, Rotaillot et compagnie, c'est pas possible. Hein, hein, Mme Le Pen est un ange à côté d'eux. Alors, elle, de toute façon, elle a compris. Hein, elle ne dit plus rien. Elle laisse parler les autres. Elle est tranquille. Voilà. M. Zemmour, on en connaît. Hein, il est appuyé, soutenu par, par Bolloré et la chaîne CNews et les médias. Donc, partant de là, voilà. Le verre est dans le fruit. Ça va être compliqué, très, très compliqué de
Alors,
sortir
Rachid,
de là.
Merci pour votre témoignage, Rachid. Merci à vous. De 01 53 48 3000, n'hésitez pas à appeler. Richie Thibault souhaite vous répondre. Merci,
oui, oui.
Rachid.
Merci, Rachid, pour l'intervention. Là où il y a vraiment quelque chose qui se pose, mais comment on peut accepter de comparer la mort de deux jeunes? Mais moi, ça me paraît mais vraiment ubuesque. Je veux dire, c'est dramatique. C'est deux drames humains qu'on peut interroger sur le plan politique de part et d'autre. Mais arrêtez, dans un chien, de comparer la mort de deux jeunes en disant d'un côté, il y a une victime franco-française
et
de l'autre,
des quartiers,
une victime arabe.
Vous êtes issu des quartiers.
Bien sûr.
Et vous-même, vous êtes issu des quartiers.
Et de l'autre, quelqu'un qui est une victime du monde arabo-musulman et de l'autre de la franco-francophonie. Non, mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, il y a des limites.
Tu parles de récupération, tu parles d'instrumentalisation. Je te dis que l'extrême gauche a de la même manière instrumentalisé la mort de Naël en criant sur tous les toits que Naël avait été tué parce que raciste. C'est faux. Naël a refusé d'obtempérer. Dès lors que tu refuses d'obtempérer, tu te mets toi-même en danger. Je répondrai une dernière fois sur les noms. Il y en a marre des pudeurs de gazelle. Dès lors qu'il y a une affaire, le nom finit par sortir. Les gens en ont marre de ces pudeurs de gazelle, de cette imposture. Les gens avaient envie de connaître les noms.
Et la présomption d'innocence, tu en fais
mais
quoi?
Mais la présomption d'innocence, ils sont présumés coupables alors.
Non, la présomption d'innocence.
Ils sont présumés coupables.
Ça n'existe pas.
Ils sont présumés coupables.
On n'est pas aux États-Unis.
En fait, la roue, tu viens de dire,
c'est la vérité parallèle.
Ils sont présumés
coupables. Non, ce que tu viens de dire, en fait, c'est un argument d'extrême droite. En fait,
ils sont présumés.
C'est l'extrême droite qui dit, en fait, ils sont présumés coupables.
Mais ça, c'est un argument d'extrême gauche de dire non.
C'est le droit. C'est le droit pénal.
C'est le droit. Le droit pénal, c'est l'extrême gauche.
Institue une présomption d'innocence.
Mais ça veut dire que demain, t'étais avec eux sans être avec eux, toi, t'es présumé coupable. Je suis pas d'accord. Il faut faire la distinguo.
Non, parce que moi, je ne traîne pas avec des bandes de délinquants qui vont tuer des gens dans des fêtes de village.
Attends,
moi, quand je vais dans une fête de village, c'est pour faire la fête, c'est pas pour tuer des gens, rien à voir.
Bien sûr. Et pour rappel, pour rappel, c'est important parce que là, je te signale que les policiers ont des missions de police et non des missions de justice. La peine de mort n'existe pas depuis belle lurette et bienheureux en France. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle existait, c'est la justice qui est en tranchée.
Mais c'est le monopole de la violence légitime.
Mais c'est les informés des quartiers qu'on revient juste après la pause. 01 53 48 3000, vous nous appelez, vous nous livrez votre témoignage. On va parler aussi de ce sujet. On reviendra aussi sur un autre sujet qui nous concerne. C'est, ça va aller dans la continuité. On parlait des prénoms, justement. Est-ce qu'on fait le rapprochement avec les jeunes des quartiers populaires? On parlera aussi le fait que les quartiers populaires, finalement, ne sont-ils pas stigmatisés à la fois, et je fais référence à ce que disait Redon Kouak, à la fois au logement, à la fois à l'emploi, à la fois à tout. Voilà, on va en parler et je vous donnerai la parole. À tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Alors, il est 19h40, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, 01 53 48 3000, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler. Solal se fait un plaisir de vous accueillir au standard. Nous sommes avec Chayros, avec Maître David Ibeskid, avec Richie Thibault et enfin avec Radouane Kourak. Chers amis, les quartiers populaires, finalement, quand on va dans la continuité, dans ces informés des quartiers, la continuité, vous savez, des noms, fallait-il les lâcher, fallait-il les donner? Est-ce que finalement, les quartiers populaires, je vous pose la question, est très simple, sont-ils stigmatisés par notre société française? Qui veut prendre la parole? Chayros.
Eh bien, pour information, moi j'estime qui sont stigmatisés dans les deux sens, du mauvais côté, très souvent, par rapport notamment à l'éducation, au comportement, mais également dans l'autre sens, nos talents viennent des quartiers. Et on sait les reconnaître que lorsqu'il y a des grands événements, et c'est bien dommage.
Et c'est bien de le dire parce qu'on ne le dit pas suffisamment.
Et
c'est bien dommage.
C'est bien dommage parce qu'ils viennent de partout.
Mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Très souvent, quand on parle de talents de quartier, on pense à des footballeurs, à des rappeurs.
Des humoristes.
C'est très intéressant ce qu'elle dit. elle dit. Parce que moi, je connais des gens de quartier aujourd'hui, et on en connaît tous, qui sont avocats, qui sont médecins, qui exercent des. David, qui exerce des fonctions éminentes dans notre société. Et, pendant des années, la réussite. La réussite dans les quartiers pour la société, la réussite, la vision de la réussite qu'on avait des quartiers, c'était d'être footballeur, d'être sportif de haut niveau. Aujourd'hui, ça a changé. Nos quartiers ont du talent et oui, du talent et le talent c'est vaste. Ce n'est pas.
Et vous-même, vous êtes le produit des quartiers populaires. Vous-même,
oui,
effectivement.
J'ai fait Sciences Po. C'est
vrai. Et vous êtes le fruit de la résilience peut-être également. mais oui,
ça c'est très macroniste. Hein.
Non, mais si c'est vrai, non, c'est pas macroniste du tout. Je pense que les gens qui viennent des quartiers sont résilients parce qu'ils ont eu des épreuves. Et quand ils y arrivent vraiment.
Oui. Voilà. Régis Thibault, ensuite maître Nabil Ebeske, j'irai accueillir Mohamed du 38 et Rabat du 69.
Oui, en parlant des quartiers, justement, Adil, c'est intéressant parce qu'on est le 1er décembre 2023. Et il y a 5 ans, le 1er décembre 2018, il y a une femme qui a été tuée par la police, Zineb Redouane. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Et à la fenêtre de son appartement, je crois au deuxième étage, il me semble, je ne suis plus très sûr, a reçu un palais de lacrymogène dans son appartement et en est décédé. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que chaque année, sur le plan de institutionnel, et tout à l'heure ça a été dit par ton premier invité, il y a un racisme qui est structurel et qui est subi par de nombreuses populations et notamment les populations vivant dans les quartiers populaires. Il y a 40 ans, c'était la marche pour l'égalité et contre les discriminations. Et c'est vrai que le schéma a pas trop changé. Les termes ont changé. À l'époque, on parlait de beurre, de rebeu. Ensuite, on a parlé d'arabe. Maintenant, on parle de musulmans quand on stigmatise ces populations. Donc, la nomenclature a changé, mais les phénomènes de stigmatisation sont toujours là. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le plan politique, c'est que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a des millions, que dis-je, des milliards qui sont dépensés pour mener des politiques répressives dans les quartiers populaires. Si à la place de cela, eh bien, on finançait les initiatives d'insertion associative comme celle que faisait notre ami Fawzi Lelouch à Sevran, eh bien, je suis convaincu que ça permettrait justement de développer des processus d'ascension et de développer des processus d'émancipation dans nos quartiers populaires. Tu sais, la France, c'est le pays de Victor Hugo. Victor Hugo avait un adage que beaucoup oublient, notamment à l'extrême droite, et pourtant ils disent qu'ils aiment la France. Ben, la France, c'est notamment Victor Hugo et sa poésie. Et Victor Hugo, que disait-il? Il disait « Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons ». Et moi, je pense que les politiques répressives, les discours de répression à tout va, eh bien justement, c'est la stigmatisation. C'est dire qu'en gros, les gens ne sont pas capables de s'émanciper et qu'on a qu'à effacer les problèmes et les effets des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des populations immigrées qui sombrent dans la délinquance. Tu peux faire le constat, c'est très bien. Mais pourquoi ils et elles sombrent dans la délinquance? Eh bien, parce qu'il y a la misère et la pauvreté. Alors, mais de quoi vient la misère et la pauvreté?
Simplement.
Non, mais là, et je pense qu'une fois qu'on s'attaque à la misère et à la pauvreté, eh bien, on peut permettre de résorber le problème de fond. Tu vois, parce que effacer les effets, c'est bien. Mais quand tu t'attaques pas au problème de fond, c'est un schéma indéfini.
J'aime bien remonter à la source. La politique de la ville, c'est l'échec des partis de gauche depuis plus de 40 ans. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir, au lieu de construire des écoles, ils construisent des city-stades. Dans mon quartier, il y avait 17 city-stades. Ça ne donne pas à manger aux gens, ça ne leur donne pas une instruction. C'est très très bien de mettre des city-stades. Mais où sont les bibliothèques? La gauche a échoué sur toute la politique de la ville depuis 40 ans.
Qui s'est attaqué à la politique de la ville ces derniers temps?
Jean-Louis Bourdon, il présentait un super plan. Maître David Biscuit.
Là, ce qui est important, en fait, c'est de savoir aujourd'hui où on en est. Parce que depuis 30, 40 ans, même beaucoup plus, on parle de discrimination. Tu disais, Adil, discrimination à l'emploi, discrimination à l'embauche. Et moi, j'ai le sentiment que rien n'a vraiment changé, même si effectivement des personnes issues de l'immigration arrivent à des postes élevés. Hein. Moi, je vois bien, j'ai fait l'école d'avocat en 2005-2006, tu avais beaucoup de... surtout des femmes, parce que l'école d'avocat, c'est 80% de femmes. Tu avais beaucoup, en fait, de femmes d'origine maghrébine. Et donc, il y a... Voilà. Donc, je pense que ça s'améliore. Après, je pense qu'il faut quand même faire un bilan sur les discriminations, parce que je suis pas sûr que ça s'améliore au niveau du logement et au niveau de l'emploi.
Eh ben justement, sonnerie, parce que les priorités aux auditeurs. Écoutons tout de suite.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Dès que la sonnerie retentit, et bien tout simplement, ça veut dire priorité aux auditeurs. Mohamed, vous nous appelez du 38, mon cher Mohamed, bonsoir. Ça va bien et vous-même?
Nickel. Ah, moi, je vous entends depuis tout à l'heure.
Vous nous appelez de quelle ville? Grenoble, peut-être, non?
Grenoble, mais je suis né en Bourgogne, moi.
Ça veut dire que
je suis
né en Bourgogne.
Où ça? La Côte d'Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre ou...
Bah, je suis né à Chalon-sur-Saône, moi.
Ah, la Saône-et-Loire.
On vous écoute, mon cher Mohamed. Vous écoutez depuis tout à l'heure et vous disiez quoi?
Sans que personne puisse me couper, juste une minute.
Allez-y. Donc vous dites, vous écoutez depuis tout à l'heure. Allez-y.
Voilà. Nous, en fait, ça a rien de parler de politique, de gauche, de droite. C'est des êtres humains, il y a des racistes, des non-racistes. C'est juste que voilà, c'est pas notre pays d'origine, même si moi je suis né en France. Hein. Quand on était gamin, nous, on n'arrivait pas à rentrer dans les boîtes de nuit. Ça veut dire qu'on faisait quoi? Ben, on baraudait dans les campagnes, dans les villes pour voir s'il n'y avait pas des balles parce que c'était plus accessible. Et puis en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentrait dans les balles, ben, en fait, vu que dans les campagnes, il y a beaucoup plus de Français pur souche et les robeux ou les types maghrébins, ils sont rares, ben, dès qu'on rentrait, déjà les portiers, ils nous mettaient en garde. Et puis dès qu'on rentrait, ben, tout le monde nous regardait de travers. Il y avait souvent des rugbymen.
C'est intéressant ce que vous dites, Mohamed. C'est intéressant.
Ça nous cherchait la merde. Ouais. Ça... Après, tout ce qui est politique, ça qui récupère, ça changera jamais. Hein. Dès qu'il y a un problème, tous les politiciens, ils parlent. Mais nous, on parle du fond. Et nous,
vous,
les jeunes,
et vous,
les robeux.
Mohamed, attendez, c'est tellement intéressant que ça me pousse à vous poser la question. Est-ce que vous, quand vous étiez. Bagarre, non, attendez, en fait. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez ce racisme anti-blanc dans votre esprit? Franchement, je vous pose la question parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui.
Moi, j'avais des collègues, j'avais des amis, ils s'appelaient Baptiste, comme Karine. On a grandi tous ensemble. Après, comme je dis, il y a des robeux, ils sont racistes. Il y a des Français, ils sont racistes. Voilà,
mais vous, à votre époque, vous ne posiez pas la question, on va se faire du blanc, par exemple, quand vous alliez dans ces fêtes
de... Jamais de la vie, oh là là, Adem, jamais de la vie.
C'est bien de l'entendre.
Toute créature, même si on ne va jamais s'en sortir comme ça. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentrait dans les balles, ça nous cherchait la merde. Souvent, ce n'était pas les gringalets et tout. C'est souvent les rugbymen, les trucs comme ça. Et nous, on était 5-6, mais voilà. C'est-à-dire, nous, on avait l'habitude de la violence, mais on n'est pas des gens qui se laissent faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça partait des fois en bagarre. Et c'est vrai que des fois, on ne s'en rendait pas compte. Sous l'effet de l'alcool et tout, ça aurait pu finir mal à chaque fois. Moi, je vais vous dire la vérité, parce que moi écoutez, je n'ai pas le brevet, je n'ai pas le bac, je n'ai rien.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont discriminés, Mohamed? C'est ça.
Je gagne 5 000 euros par mois.
C'est bien, bravo.
Mais en vrai de vrai, pour pas qu'il nous arrive de galère. Il n'y a pas de robeux, il faut juste pas traîner. Mais maintenant, nous les jeunes, tant que ça ne nous arrive pas, on ne comprend pas. Moi, j'ai fait de la prison à 19 ans, j'ai fait pleurer ma mère une fois, pas deux. Mais maintenant...
Non, mais c'est bien de témoigner, il est important son témoignage. Mohamed.
Maintenant, je veux juste finaliser sur ça, ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. Moi, je mets ma main à couper, ils ne sont pas partis pour tuer des gens. Et les gens, ce n'est pas des malades, les gens veulent faire de l'argent, ils veulent s'amuser. Maintenant, le problème de ça, c'est que les gens ne rentrent pas partout. Ils ont dû faire un barodé en voiture, ils savaient qu'il y avait un bal. Ils ont dû se dire mot pour mot. Oh, on va serrer de la meuf ou je sais pas, on va faire
ça.
Un petit tour.
C'est ça, non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais merci de le dire. Merci de poser des mots là où il faut. C'est important, c'est important.
Mon langage, hein. C'est pas
non, 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 vous avez raison, vous avez un franc parler, c'est très bien.
À mon avis, il y a un coup dans la tête qui est parti ou un truc. Et puis le gars, il s'est. Voilà, je sais pas, à mon avis, ils ont dû être 4-5, les autres, ils devaient être 30. Parce que nous, une fois, on s'est déjà disputé. Tu dis, il y a un gars qui cherche la merde. À la fin, c'est tout le bal qui se retourne contre toi. Pourquoi?
Je suis content. Non, mais je suis content que vous nous appuyez. Parce que c'est très important d'entendre ça. C'est vrai. Attendez, Mohamed, je vous garde juste deux secondes. Un tour de table juste pour vous demander la réaction de ce que dit Mohamed. Non, mais c'est important ce qui se passe là en direct à l'antenne.
C'est important ce qu'il dit.
C'est très important, Mohamed, le témoignage. Merci pour ce témoignage.
C'est important ce témoignage. Pourquoi? Parce que c'est la voix de quelqu'un qui est concerné, tu vois. Et le problème, c'est que depuis cette histoire sur les plateaux télé, tu vois, comme la très bien dit Mohamed, des professionnels de la politique, des politiciens, mais c'est très important que des gens qui vivent le racisme, qui savent ce que c'est, qui prennent la parole, qui ont un vécu et viennent expliquer. Et si tu vois, c'est des gens comme Mohamed à qui on avait donné la parole, je pense que dans l'esprit de certains, ça aurait permis d'apaiser les choses et de comprendre avec beaucoup plus d'intelligence,
Mohamed,
et d'impidité.
Mohamed, merci infiniment. Je vous libère et je vous dis, ne lâchez rien. Bravo. Et vous êtes, vous avez, on sent que vous avez.
Parler de politique, hein. Franchement.
Attendez. Vous avez compris que la réussite passe aussi.
C'est un exemple de réinsertion. Tout à l'heure, on parlait de prison. C'est un exemple de réinsertion.
Non, faut même pas. Non. La prison,
c'est important. C'est la preuve de réinsertion.
Il est né en France, c'est un Français.
Pourquoi tu parles de réinsertion?
Il n'y a pas de réinsertion. Mohamed, je vous dis bon courage pour la suite, Mohamed. Et vous revenez quand vous voulez.
Il n'y a pas de souci, mais juste pour finir, s'il vous plaît.
Parce que je rends l'antenne.
C'est juste qu'il ne faut pas traîner dehors. Faut pas aller dans des endroits où et c'est tout. Preuve, moi, depuis que je travaille, je me suis marié, tout ça, je me fais même plus contrôler.
Félicitations.
Absolument. Faisons un tour de table. Merci, Mohamed. Merci. Je vous libère, Mohamed, parce que je suis pris par le temps. Un tour de table. Ce que dit, évidemment, le témoignage est très précieux, ce témoignage-là. J'espère qu'il est entendu par tous les médias mainstream. Mmh. C'est très important.
Pour moi, il est raisonné, raisonnable et tout à fait vrai.
Il est basé sur le réel, parce que dans les plateaux télé, que ce soit d'ailleurs l'extrême gauche, l'extrême droite, ils essayent à chaque fois d'instrumentaliser ce type d'événement. Mais Mohamed, il a dit lui-même, il a bien dit qu'il était discriminé quand il était très jeune, à l'entrée des boîtes, ce qui est vrai qu'à l'époque, il y a 20 ans, ça avait été mis en avant de l'actualité.
Très court. Hein.
Et voilà, mais bon, après, c'est pas une question d'insertion et d'assimilation. Il est français.
Exactement. Pour faire simple, il y a 40 ans, dans les années 70, je pense qu'il y a certains qui nous écoutent qui ont connu l'époque des ratonnades et c'était extrêmement grave et ça rappelle de mauvais souvenirs à certains. Aujourd'hui, 40 ans après, il y a une résurgence de l'extrême droite, alors ne baissons pas la garde.
Moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Mohamed et oui, je dirais quand on veut, on peut finalement.
Quand on veut, on peut, effectivement. Merci, Chahiros, à bientôt.
Merci,
artiste notamment. Vous venez quand vous voulez. Maître
Merci.
David, quand vous voulez.
Salut Adil.
Très bon week-end à vous.
Ouais, bon week-end.
Les Chichibos.
On ne lâche rien.
C'est ça. Vous avez bien raison.
Et on ne lâche rien aussi.
Vous ne relâchez rien, surtout que vous êtes menacé en plus. Donc Radouane Courac, ne lâchez rien. Merci à Solal à la réalisation. Time Sport avec Bilal Nedman, 20h-21h. Vanessa, de 21h à 23h. Et puis tous les programmes du week-end qui vous attendent sur BFN et qui vous accompagnent. Quant à moi, lundi, avec autant de plaisir, à 19h. Mais surtout.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.